Le vicaire des Ardennes, huitième partie. Le soir, Jauniot, qui connaissait assez le cœur humain, prit à part Monsieur de Raucourt et lui dit « Monsieur, je vous jure sur ma tête que la maladie de madame ne vient que de ce que le jeune vicaire est un fanatique, que l'amour de son état transporte, et qu'il ne veut pas répondre à son amour. J'ai entendu leur conversation, et j'en suis certain. » « Jauniot, Jauniot !» s'écria le marquis. « Aussitôt que je serai de retour à Paris, je te procurerai l'emploi que tu désires. » Le marquis, transporté de joie, courut à l'appartement de sa femme, et sans l'instruire des causes de son bonheur, il l'accabla de tendres caresses et de soins touchants. Le lendemain même, l'évêque d'A se rendit au château donner le vicomte. Lorsque le marquis aperçut la voiture du prélat, il descendit lui donner le bras, et il le guida lui-même vers l'appartement de madame de Raucourt. L'infortunée marquise était dans son boudoir, à la cheminée duquel le portrait de l'ecclésiastique dont nous avons parlé restait toujours suspendu. Joséphine, assise sur un fauteuil et les yeux fixés sur la tenture de mousseline, croyait y voir la noble et touchante figure de son idole. Des larmes roulaient sous ses paupières, et son attitude suffisait pour déceler la contemplation méditative d'une amante malheureuse. Tout à coup, elle entend des pas, elle tressaille, la porte s'ouvre et son mari paraît, conduisant Monsieur de Saint-André. Madame de Raucourt baissa les yeux. Le prélat n'osa pas regarder Joséphine. « Madame, dit-il avec une émotion qu'il ne put cacher, malgré sa longue habitude et l'expérience que l'âge lui avait donnée pour dérober ses passions à l'œil des hommes. « Madame, aussitôt que j'ai appris vos souffrances, je suis accouru, vous le voyez, pour les soulager ou pour y prendre part. « Monseigneur, dit-elle, il en est que vous auriez dû calmer depuis bien longtemps. » « Depuis bien longtemps ? » répéta le prélat avec un air de reproche. « Non, madame, non, il n'y a pas longtemps que je le puis. » « Vous parlez hébreu pour moi ? » interrompit le marquis en examinant avec attention l'émotion profonde de sa femme et du prélat. « Mon ami, dit Joséphine en regardant Monsieur de Raucourt avec douceur. « Je te prie de me laisser seule avec mon seigneur et d'avoir soin que personne n'approche d'ici. » Le marquis se leva et s'en fut. Quel moment ! Après 10 ans, la marquise revoyait l'objet de ses premières amours. Malgré la rudesse que la religion avait donnée à son âme, l'évêque ne put réprimer le mouvement de volupté douce qui fit tressaillir son cœur lorsque son ancien ami lui jeta un premier coup d'œil, empreint de toute la grâce des souvenirs. Quoique la vertu la plus austère eût depuis longtemps détaché le vieux prêtre de tout ce que le monde offre de plaisir, il fut forcé de s'approcher, et une force indomptable le porta à serrer la main de madame de Raucourt en s'écriant « Joséphine !» Pour toute réponse, la marquise lui montra du doigt le portrait qui était sur la cheminée, et l'austère prélat, y jetant un rapide coup d'œil, sentit battre son cœur, sentit se réveiller tout ce qu'il y avait encore en lui d'humain, en reconnaissant le portrait qu'il avait donné jadis à mademoiselle de Vaucelles, sa première, sa seule passion. Il ramena son regard sur la pâle Joséphine, et il s'aperçut que ce qu'il venait lui dire exigeait les plus grands ménagements, car elle n'était pas assez forte pour pouvoir en supporter la nouvelle. « Grand Dieu ! S'écria-t-il, comment puis-je aggraver ma faute au moment où je touche au cercueil ? « Grand Dieu, me pardonneras-tu ? » « Il n'y a plus de crime à me voir, » répondit la marquise. « Vous ignorez donc que je vous aime toujours ? » « Ne dois-je pas l'ignorer, d'après l'accueil que vous me fîtes lorsqu'il y a 10 ans je vous vis à A ?»« Joséphine, » s'écria le prélat, « excuse-moi, j'ai craint de perdre, par quelque imprudence, la considération dont je suis entourée. Cette odeur de sainteté, cette réputation sans tache, se serait évanouie, et S'il faut l'avouer, je me craignais moi-même. Je sentais que je t'aimais toujours, et la sévérité dont je me suis armée n'était que trop nécessaire pour moi. Quant à vous, madame, reprit le prélat, quant à vous chez qui mon image n'est pas restée gravée longtemps. Ingrat ! S'écria la marquise. Quand j'aurais dû oublier l'amant, le père de mon enfant ne me serait jamais devenu indifférent. Adolphe, je vous aime toujours. Le ton de cette dernière phrase était d'une énergie sans pareille. Il indiquait le sentiment que madame de Recourt gardait au prélat. Ah, je vous aimerais bien plus, reprit-elle avec un soupir, si vous m'aviez laissé mon fils. Comment, Joséphine, osez-vous me tenir un pareil langage, lorsque vos traits annoncent que vous êtes en proie à une passion criminelle? Monseigneur, est-ce à vous de me la reprocher? Dit-elle en lui lançant un regard foudroyant. Oui, madame, répondit le prélat, une femme qui a un fils. J'ai un fils, j'ai un fils, s'écria-t-elle en délire. Où est-il donc? Ah, monseigneur, Adolphe! Et elle se précipita aux genoux de l'évêque. Par grâce, dites-moi tout, rendez-moi mon fils! Cria-t-elle avec cette brûlante énergie, avec cette voix déchirante d'une mère qui veut voir son seul enfant pour la dernière fois de sa vie. Madame, s'écria le prêtre à voix basse et en se levant, madame, songez que l'on peut nous entendre, qu'un seul mot me perd, vous, votre enfant, tout ce que vous aimez. L'effroi de monsieur de Saint-André annonçait combien il tenait à l'éclat de sa réputation de sainteté. Il n'est donc pas mort ? Demanda madame de Recourt presque hors d'haleine et dont les yeux dévoraient le cœur de glace du rigide prélat. Non, répondit-il avec un sourire expressif. Puissance du ciel, mon âme se brise ! Et la marquise tomba presque évanouie sur son sofa. Adolphe, à quelle torture ne m'as-tu pas soumise ? Au nom de Dieu, si tu veux effacer tes fautes aux yeux de l'Éternel, ne me fais pas languir. Dis-moi, tu l'as revu?
Oui.
Tu l'as nommé ton fils? Tu...
Non,
répondit énergiquement le prélat. Le monde doit toujours ignorer notre faute, lui-même.
Je reconnais là, s'écria la marquise pleurant. Je reconnais celui que le fanatisme a rendu inaccessible aux sentiments les plus beaux qui soient dans le cœur de l'homme.
Adolphe, dit Joséphine en saisissant le bras du prêtre, dis-moi où est mon fils, ce qu'il est, où je publie sur toute la terre ma honte et la tienne.
Le secret mourra donc là, répondit froidement l'évêque en montrant son cœur.
Et si tu ne me jures pas d'observer exactement tout ce que je vais te prescrire?
Oh, je te devine.
Et quoi? Tu n'as pas foulé toutes les lois humaines, vertu, gloire, vie future, pour saluer ton fils d'un baiser paternel?
Ah, Dieu, je sacrifierai cette vie mortelle et l'autre pour le voir 10 minutes.
Ayant dit, la marquise retomba sur son siège et resta immobile. L'évêque, saisissant ce moment d'abattement, s'avança pour lui parler.
« Laisse-moi, » dit-elle. « Va, malgré tes pénitences, tu n'iras pas auprès d'un Dieu dont le plus beau titre est celui de père. Faire languir et mettre au supplice une mère. »
« Joséphine, tu dois savoir quel est ton fils. Le ciel le veut. Car après tout ce que j'ai fait pour anéantir cette preuve énergique de notre faute...
« Anéantir ?»
s'écria la marquise avec le cri sublime de l'effroi. « S'il a pu échapper...
Ah !»
Et madame de Recourt parut respirer.
« S'il a pu échapper, reprit l'évêque, c'est que Dieu veut que vous jouissiez de son aspect.
Et je suis forcée d'entendre de pareils discours, dit Joséphine avec l'accent d'une profonde douleur.
« Joséphine, écoute-moi, continua l'évêque. Regarde mes cheveux blancs. Dans peu, la tombe va recevoir celui dont tu fus l'unique passion. Laisse cette tête blanchie se couvrir sans tache du fatal linceul. Tu n'auras pas longtemps à tenir tes serments. Je vais déchirer le voile qui te cache ton fils. Mais jure-moi que tant que je vivrai,
tu ne l'instruiras pas du mystère de ta naissance. Imite-moi, Joséphine. Contente-toi du délicieux tressaillement de ton sein à sa douce vue. Renferme en toi-même cette joie divine. Quand je serai mort, tu pourras lui dire « Je suis ta mère ». Jusque-là, garde le secret dans ton cœur. Car ma fille, l'intérêt de notre enfant l'exige. Tu peux encore l'adopter un jour. Alors, garde-toi de prononcer un seul mot qui puisse nuire à sa fortune. Elle sera brillante. À ce prix, tu vas connaître ton fils.
« Adolphe, monseigneur, je jure tout !»
s'écria-t-elle avec vivacité. « Tu m'as compris !» continua le prêtre en exprimant le contraire par son regard.
« Oui !»
répondit-elle brièvement. « Jurez sur l'évangile, » dit le prélat.
« Je jurerai avant tout par mon enfant, mais, »
dit-elle avec un sourire ironique, « l'évêque d'A, il doit savoir que Madame de Raucourt sait tenir un serment et garder un secret.
« C'est vrai, »
repartit le prélat en se souvenant qu'aucune indiscrétion n'avait trahi le secret de sa faute, ainsi que Joséphine le jura jadis.
« Madame, » reprit-il, « votre fils...
« C'est ?»
dit-elle en pâlissant, en tremblant, en rougissant et respirant à peine.
« Au moins, Joséphine, recueillez-vous, rassemblez vos forces, il faut vous attendre. »«
Mon fils, mon fils, mon fils !»
répéta-t-elle avec une énergie croissante.
« C'est... » dit l'évêque en la regardant.
« Achevez, car je meurs !»«
C'est Joseph, le vicaire !»
s'écria Monsieur de Saint-André. À ce nom, Madame de Recours tombe évanouie. En voyant Joséphine étendue sur le parquet, l'évêque perdit la tête et sonna. Mais lui-même sentit son cœur défaillir, et lorsque Monsieur de Recours accourut, il eut l'effrayant spectacle de ces deux êtres privés de la vie. Il s'échappa, courut rapidement chercher des selles. Alors la marquise revint à elle et s'élança en criant avec la rage de la folie.
« Mon fils, mon fils !»
L'évêque la retint dans ses bras débiles en lui disant « Madame, vos serments !» Madame de Raucourt regarda le prêtre effrayé et se tut, mais son regard reprochait énergiquement cette barbarie au prélat.
« Mon ami, » dit-elle à Monsieur de Raucourt qui rentra dans ce moment, « mon ami, j'existe maintenant, je suis guérie !»
Elle n'était plus sur la terre.
« Mon fils, » reprit l'évêque en s'adressant au marquis, « je vous ai promis d'apporter la paix en ces lieux. J'ai rempli ma promesse. Heureux si cet effort ne me coûte pas la vie. Adieu. »
Monsieur de Saint-André se leva, mais un regard de Joséphine le fit rester, et l'attirant dans la pièce suivante,
« Barbare, vous n'irez pas voir votre fils ?»«
Avec vous, n'est-ce pas ?»
reprit-il avec un sourire et un regard où tout le feu de son premier âge et de son premier amour apparaissait.
C'est le moyen de reconquérir tout ce que vous avez perdu.
Monsieur le marquis, dit le prélat en rejoignant Monsieur de Raucourt, madame vient de faire un vœu. Je vais la conduire pour qu'elle l'accomplisse. Vous ne tarderez pas à nous revoir.
Comment, ma belle ? S'écria le marquis. « Toi qui pouvais à peine te traîner, même soutenue par deux femmes, tu parles de sortir ?»«
Mon ami, j'existe » reprit-elle. « Je suis une autre femme, et tu y gagnes !»«
Au revoir !»
Elle se plaça à côté de l'évêque, qui ordonna à son cocher de les conduire au presbytère. Le bon curé était à table avec son vicaire. Le jeune homme, triste comme à son ordinaire, songeait à Mélanie.
Comment avez-vous trouvé la marquise ?
Demanda Monsieur Gosse.
Elle se meurt, ainsi que Mélanie, ajouta-t-il en lui-même.
Malheureuse femme, je la plains. Non de mourir pourtant, non de quitter cette vie pleine d'amertume pour un séjour.
Un bon tien vaut mieux que deux tu l'auras, interrompit joyeusement le curé.
« Que cela m'afflige,
reprit-il d'un air attristé. « Madame de Raucourt est si bonne, si aimable. »«
Bah, Dieu est sage, mon jeune ami. Le marquis se remariera. Il aura des enfants qui hériteront de sa pairie. Cependant, vieux mari, jeune femme, mettent l'amour en terre. Et quoiqu'amour et seigneurie ne veulent pas compagnie, s'ils se remariaient, ils pourraient avoir des enfants. Mais il n'y a pas si bon cheval qui ne bronche. Un clou chasse l'autre. Marguerite !»
Ah, bah ! Marguerite regardait par la fenêtre. Elle accourt et s'écrie.
« Voici, monseigneur !»
Puis elle s'échappe et ouvre la porte en arrangeant son bonnet. Monsieur Gosse et Monsieur Joseph s'étaient élancés dans le salon. Ce fut de cette pièce qu'ils allèrent à la rencontre de l'évêque et de la marquise.
« Je voudrais qu'un peintre représentât fidèlement le premier regard que Madame de Raucourt jeta sur son fils. Elle s'admira elle-même. Son œil humide ayant perdu le feu sombre de sa passion criminelle, savoura la plus grande volupté que puisse éprouver une femme. Quelle énergie il lui fallut pour ne pas voler dans les bras de ce beau jeune homme et le couvrir de ses baisers maternels. » L'évêque prit la main du jeune homme, ce qui excita l'envie de la mère, et il lui témoigna toute son affection par un doux serrement de main. On s'assit. Monsieur Gosse, malgré sa haine pour le latin, récita pour compliment le Nunc Dimittis à monsieur de Saint-André, qui remercia le bon pasteur par un mouvement de tête. Le bonhomme, dans sa joie, prit d'abord la visite pour lui. Mais un instant de réflexion et l'aspect de la marquise, qui ne leva pas les yeux de dessus le vicaire, le firent revenir de son enthousiasme. Madame de Raucourt ne savait pas où elle était. Pour elle, l'humble salon du curé devenait un palais. Si je ne m'appesantis pas davantage sur un pareil instant, c'est qu'il n'y a pas de couleur pour en peindre le charme, et qu'il passa aussi vite que la ligne que vos yeux viennent de parcourir. La marquise était revenue au château. Elle se trouvait assise dans son fauteuil, et l'évêque voyageait depuis longtemps sur la route d'A, qu'elle s'imaginait avoir rêvé et n'avoir vécu qu'une seule minute, la minute où elle vit son fils. Le soir, elle se coucha en pensant à Monsieur Joseph. Elle devait se réveiller avec cette même pensée. Heureuse, mille fois heureuse. On doit, pour peu qu'on ait d'imagination, se figurer tout ce qui se passa dans le village, que la visite de l'évêque au presbytère avait mis en rumeur. Marguerite eut une longue conférence avec son maître, à qui elle chercha à prouver que M. Joseph était fils de l'évêque. Mais M. Gosse répondit que chacun était fils de ses œuvres. Chapitre 19. Un tel événement influa sensiblement sur la santé de la marquise. L'exaltation lui avait fait trouver des forces dans le premier moment. Mais le lendemain, lorsqu'elle se réveilla, elle éprouva une grande prostration, physique et morale. En effet, à l'instant où l'évêque lui avait montré son fils, dans celui qu'elle aimait, par une révélation mal comprise de la nature, une horrible révolution s'était opérée dans son organisation. Cette situation, unique peut-être, et assurément une des plus extraordinaires qui puisse se rencontrer dans la vie d'une femme, eut causé la mort de la marquise, si, au milieu du renversement total de ses sentiments, elle n'eût senti s'élever dans son cœur la joie ineffable de la maternité. Aussitôt qu'elle put réfléchir, elle trouva que ses tourments avaient seulement changé de nature. « Et quoi ? Se disait-elle. « Il me faut voir mon fils sans oser lui parler. Il va me fuir, car il prendra tous mes regards de mère et toutes mes paroles de tendresse pour des témoignages d'amour, d'un amour que j'aborde à présent. Ah, comme je suis bien plus heureuse d'être sa mère. Oh, comme je voudrais n'avoir jamais parlé et pouvoir effacer le souvenir de la scène de la vallée. Quel fils ! Talent, beauté, vertu. Ah, quand pourrais-je lui dire « Joseph, tu es mon fils !» Mais hélas, ce serait lui dire « Mon fils, tu n'as point de nom, ton père te renie, quoi qu'il t'aime. »
Hélas, oui. Comme l'a fait observer Adolphe, sa fortune dépend de mon silence. Si monsieur de Raucourt pouvait l'aimer. Quoi, un jour, à la face du monde, et non plus en secret, je le nommerais mon fils? Il aurait un nom? Malheureuse mère, tais-toi! Quel supplice! Elle était absorbée dans ses réflexions lorsque monsieur de Raucourt entra, en regardant sa femme avec inquiétude. « Eh bien, ma belle, comment allez-vous ce matin ?»« très bien, je suis guérie. Asseyez-vous là, plus près de mon lit. Bien. »« Es-tu guérie de tout, des maux de l'âme et de ceux du corps ?» demanda le marquis. « Oui, » dit Joséphine en pressant la main de son mari. « Mais écoute, mon cher enfant, si tu veux me voir toujours rayonnante de bonheur et de santé, laisse-moi voir souvent monsieur Joseph, et n'en prends nul souci. » À ces mots, le marquis frémit et regarda sa femme d'un air grave et chagrin. « Cher ami, dit-il, vous savez à quel point je vous aime. Pour vous, je ferai les plus grands sacrifices. Mais songez à vous-même, au danger auquel vous exposez votre réputation. Si vous êtes mieux, partons plutôt pour Paris. Jamais, s'écria la marquise. Je veux rester à Aunay toute ma vie. Que dites-vous? Repartit monsieur de Raucourt stupéfait. Quelle paix l'évêque a-t-il donc apporté? Se dit-il à lui-même. Monsieur, reprit Joséphine en attirant son mari par un geste plein de grâce, vous qui vous mêlez journellement des secrets d'État de toute l'Europe, et qui avez étudié l'art de surprendre les pensées des autres. Écoutez donc. Je voudrais bien savoir pourquoi un jeune homme de l'âge, de la tournure et de l'esprit de monsieur Joseph se confie à Aunay. Il a des chagrins, certainement. Sans cela, comment eût-il pu se faire prêtre? Ces derniers mots furent prononcés avec l'accent du regret. Madame, répondit le marquis, on ne cherche à deviner que des secrets d'une grande utilité. Mon cher ami, reprit madame de Raucourt en changeant subitement de pensée. « Avouez-moi quel sentiment vous avez pour ce jeune prêtre ?»« Je le hais. »« Parce que je l'aime ?»« Peut-être. »« Je veux vous le faire aimer. »« Et vous savez que ce que je me mets en tête... »« Ne parlons pas de tête, » dit le marquis en souriant d'un air demi-contrarié, demi-satisfait. Ce fut ainsi que chaque jour, la marquise accabla monsieur de Raucourt de séductions et de sollicitations pour ramener à changer de sentiment à l'égard de monsieur Joseph. Elle y mit une si gracieuse insistance, et tout en tourmentant son mari, elle l'entoura de tant de soins, de prévenances, d'amour, que ce dernier ne savait qu'en penser. Toutes ses idées se confondaient et se perdaient dans ce labyrinthe inextricable, et il ne trouvait d'autres explications à cette conduite, sinon que la femme est un être indéfinissable. Mais l'intimité du jeune prêtre et de madame de Raucourt était un fait positif qui remettait sans cesse sa jalousie en haleine. La patience et les réflexions du marquis étaient à bout, et un éclat devenait imminent. En effet, une fois que la marquise put se livrer sans crime à sa tendresse pour monsieur Joseph, on comprend qu'elle le vit aussi souvent qu'il lui fut possible. D'abord, tant qu'elle fut trop faible pour se lever, elle le faisait demander et le retenait longtemps à son chevet. Puis, lorsqu'elle entra en convalescence, elle se promena dans son parc, appuyée sur le bras du vicaire, qu'elle choisissait pour soutien avec un visible plaisir. Ces préférences marquées déchiraient le cœur de monsieur de Raucourt, qui, pendant les 8 premiers jours, ne les laissa pas une minute seule, et qui se sentait transporté d'une rage effroyable lorsqu'il surprenait les tendres regards que sa femme arrêtait sur le jeune homme. Et comment eût-il pu apprécier les sentiments de madame de Raucourt, puisqu'elle-même s'y était trompée d'abord? Un matin, c'était la 3e fois que madame de Raucourt se promenait dans son parc. Elle se dirigeait avec monsieur Joseph et son mari vers les ruines de l'ancien château, lorsqu'une affaire obligea le marquis de se retirer. La marquise resta donc seule avec le vicaire. « Mon ami, dit madame de Raucourt au jeune prêtre. Vous devez vous souvenir de la cabane du bûcheron. Tâchez, je vous en prie, d'oublier cette affreuse scène. J'avais pris le change sur le sentiment que j'éprouve pour vous et qui est une affection toute maternelle. Vous n'avez jamais connu votre mère. Je n'ai jamais vu mon fils. Il aurait votre âge. Laissez-moi vous donner ce doux nom, et si vous avez quelque amitié pour moi, l'illusion sera presque une réalité.
Ah, madame, reprit le vicaire, je puis vous assurer qu'il ne me sera pas difficile d'avoir pour vous des sentiments de cette nature. Mais si vous voulez que je parle à cœur ouvert, je les crains.
Ah, ne balancez pas, s'écria la marquise avec vivacité. Livrez-vous-y tout entier.
Je regardais même, continua Joseph, cette promenade comme la dernière. Vous êtes parfaitement bien rétabli, vous avez sur le visage les roses de la santé. La tristesse a fui loin de vous en même temps que la souffrance. Mes consolations et mon appui ne vous sont plus nécessaires. Là où j'ai mis le malheur, là ma place est marquée. Regardez mon front, chaque jour il pâlit davantage.
Joseph, vous ne direz donc pas vos chagrins à votre mère ?
Oh non, s'écria le jeune prêtre.
Mon ami, dit la marquise, vous ne sauriez croire combien j'aurais de bonheur à pleurer avec vous. Ah, croyez-moi, les femmes véritablement amies connaissent l'art de guérir les plaies de l'âme. Et si vous pouviez deviner comme je vous aime. Ah, Joseph, vous ne me refuseriez pas.
Je voudrais, reprit-elle avec un son de voix touchant,
vous faire comprendre ce sentiment qui joint à la sainteté de l'amitié tout le dévouement et la tendresse de l'amour. C'est une passion chaste et sacrée dont vous ne devez pas craindre les témoignages purs de toute pensée terrestre, car je vous aime comme une mère aime son fils. Puissiez-vous lire dans mon âme, oh mon ami, mon fils, et puisse ces paroles bannir de votre mémoire ce que je vous ai dit autrefois au milieu de la vallée, et de telle sorte qu'il n'en reste plus de traces.
Ah, s'écria Joseph, vous avez dépeint tout ce que je sens pour vous, car vous avez vaincu ma misanthropie, et près de vous seul, j'oublie mon serment et mes malheurs, et tout, enfin.
Venez donc me confier vos souffrances, dit cette mère, dont les yeux parcouraient avec complaisance le visage noble et énergique du jeune homme.
J'imagine, ajouta-t-elle, qu'elles ne sont pas sans remède, et que votre douleur repose sur des motifs qui manquent de réalité.
Hélas, s'écria le jeune prêtre en lui-même et en détournant ses yeux pleins de larmes. Qui donc peut faire que je ne sois pas le frère de Mélanie?
À quoi songez-vous? Vous ne répondez pas. Allons, Joseph, vous êtes mon fils d'adoption. Ayez confiance en votre mère.
S'il en était ainsi, s'écria Joseph en versant un torrent de larmes.
Il s'assit sur le gazon et cachant son visage entre ses mains.
Oh, Mélanie, Mélanie, quelle joie! Dit-il à travers ses sanglots.
Que voulez-vous dire? Demanda la marquise qui pleurait en voyant pleurer son fils.
Eh bien, reprit le vicaire, puisque vous me portez une amitié sincère.
Ah, je vous l'ai prouvé ici même en vous confiant mes secrets.
Joseph, dit-elle en le regardant avec une émotion profonde, si vous aviez pour mère,
songez que c'est une supposition,
si vous aviez pour mère une femme pour qui votre naissance fut un opprobre, pour qui votre vue fut un remords, et qui pourtant fut fière de vous avoir donné le jour, qui brûla de vous voir, de vous presser sur son cœur, que feriez-vous à cette pauvre mère?
Ce que je ferais, s'écria le vicaire,
je me jetterais dans ses bras, et je voudrais que l'amour étouffât en elle la voix du remords. J'irais au bout de la terre vivre avec elle, et je l'entourerai de tant de soins que l'opinion des hommes ne pourrait rien sur mon bonheur.
Joseph, Joseph, qui donc t'inspirerait une indulgence si opposée à la sévérité de tes principes?
La nature, s'écria-t-il.
Ah, que ne suis-je restée dans mon désert! Je ne mourrai pas jeune, triste et consumée par une passion sans espoir. »
Madame de Raucourt s'était jetée au cou du prêtre et l'embrassait avec une effusion toute maternelle.
« Je n'en puis plus, répondit-elle. Je suis suffoquée. Joseph, à demain, venez au château par le parc. Vous monterez par l'escalier dérobé. Je serai dans mon boudoir et je ferai en sorte que nous y soyons seuls. »
« Fort bien !» s'écria M. de Raucourt quand le vicaire et sa femme furent partis. Ils s'étaient approchés sans bruit, et favorisés par un massif, ils venaient d'entendre ces derniers mots.
« Ah » reprit-il, « je vois ce que l'évêque d'Aille est venu faire chez moi. Oh, les gens d'église, les gens d'église! Ils prennent le monde pour leur sérail. Ils se soutiennent, ils s'entraident. Les libéraux ont raison. À la session prochaine, je veux siéger au côté gauche, à l'extrême gauche, entre Manuel et Chauvelin. Je suis libéral, je suis radical, je suis jacobin, je suis carbonaro. Oui, monsieur de Saint-André sera venu, par quelques arguments jésuitiques, lever les doutes de madame de Raucourt et lui donner même l'absolution. Mais quel intérêt avait-il? Oh, rage! Ah, je veux éclaircir ce mystère. Ou plutôt, je ne sais ce que je veux. »
Monsieur de Raucourt fut au supplice toute la journée. Il regardait sa femme avec une attention marquée, et ses yeux semblaient aller chercher ses plus secrètes pensées au fond de son cœur. Un horrible tourment s'emparait de son âme lorsque Joséphine tournait sur lui des yeux remplis de douceur et d'innocence, et qu'il voyait son visage resplendir de contentement et de bonheur lorsqu'elle l'accablait de caresses. Alors, l'idée qu'elle aimait le vicaire empoisonnait tout ce qui eût fait son bonheur autrefois, et il se serait volontiers déchiré le sein quand il songeait que toute cette tendresse était feinte et qu'elle s'imaginait le tromper. Il jura d'enlever sa femme de vive force et de l'emmener à Raucourt ou à Paris. Enfin, sa fureur arrivant au comble, il médita de se venger et du prêtre et de Joséphine. Le lendemain matin, il mit Jauniot en embuscade pour qu'il le prévînt lorsque le prêtre paraîtrait. Mais madame de Raucourt ne lui laissa pas le loisir de venir troubler son tête-à-tête. Elle entra, contre son habitude, chez son mari, qui n'était pas encore levé. Et s'asseyant près de lui, elle lui demanda, après mille gracieuses coquetteries dont M. de Raucourt n'était pas d'humeur à se prévaloir ce jour-là, s'il se sentait disposé à se donner beaucoup de peine pour satisfaire un des caprices de sa femme. M. de Raucourt fit une grimace qui ne voulait dire ni oui ni non. Madame de Raucourt insista.
« Nous y voilà !» s'écria le marquis.
« Ah ! Il est expressément défendu de murmurer !» interrompit Joséphine en embrassant son mari. « Écoutez donc !» Et au lieu d'expliquer le but de sa visite, elle redoubla ses agaceries intéressées.
« Et tout cela est, reprit le marquis, pour me dire d'attendre patiemment ma volonté.
« Oh, c'est un peu trop fort !» s'écria M. de Raucourt.
« Comment trop? Pas assez ? Et vraiment, on se donnera la peine de vous aimer comme on le fait pour n'avoir aucun droit sur vous ?»«
Joséphine, souvenez-vous bien de ce que vous venez de dire là, et tâchez de pratiquer ces préceptes. Aujourd'hui seulement. »
« Qu'est-ce que cela? Votre ton annonce de la rébellion, je crois. Allons, j'exige que vous montiez en calèche, que vous couriez à bride abattue jusqu'à A, et que vous m'en rapportiez tous les romans nouveaux qui auront paru depuis mon arrivée à Aunay. »
« Quelle est cette nouvelle fantaisie ? »
s'écria madame de Raucourt en riant. « Avez-vous jamais vu qu'une femme rendit compte de ses caprices ? Mais tout change. Comment feriez-vous donc si nous n'en avions pas ? Ah, désormais, lorsque je m'en irai, j'aurai soin, pour vous gouverner, de laisser mon dé ou l'un de mes chapeaux, pour imiter Charles XII qui voulait envoyer une de ses bottes au Sénat de Stockholm.
« J'y cours, madame, j'y cours !» L'expression sardonique que M. de Raucourt mit à ce mot inquiéta Joséphine. Néanmoins, le marquis fit mettre les chevaux et partit au grand galop. Bientôt, Mme de Raucourt perdit de vue la calèche et elle se rendit à son boudoir.
« Enfin, se dit-elle, je vais connaître les malheurs de mon fils. »«
Madame, s'écria Marie tout essoufflée, voici le vicaire. »
« Bon, ma chère nourrice, mets-toi en sentinelle et que rien ne nous interrompe. »
La nourrice courut dans le vestibule en laissant toutes les portes ouvertes. Comme Marie arrivait à l'antichambre des appartements de la marquise, elle se trouva face à face avec M. de Raucourt, qui avait laissé partir la calèche et qui accourait, averti par Jauniot, de l'arrivée du vicaire. Jauniot avait même eu l'adresse perfide de mettre le verrou en dehors à la porte de l'escalier dérobé, de manière que M. Joseph ne pouvait plus sortir que par les appartements.
« Monsieur !» s'écria courageusement la nourrice. « Madame désire être seule. »«
Taisez-vous. Madame vous fait jouer un joli rôle. Vieille folle, taisez-vous et gardez-vous de reparaître devant moi. »
Le marquis s'élança. Mais la nourrice, oubliant son âge, le devança et arriva au boudoir en criant « Madame, voilà monsieur !»
Sur-le-champ, la marquise ferma la porte au verrou, en priant le prêtre de ne pas dire un mot. En ce moment, une idée terrible vint l'épouvanter. C'est que, sous peine de faire le malheur de M. de Raucourt, il fallait lui expliquer l'intérêt qu'elle portait au jeune homme.
« Madame !» s'écria le marquis en secouant la porte du boudoir. « Ouvrez-moi sur le champ, je le veux. »«
Il ne me plaît pas de le faire, » répondit-elle.
« Jauniot, » dit le marquis, « allez chercher des maçons et faites murer l'autre porte. »«
Madame, » reprit-il, « vous n'êtes pas seule ?»«
Non. »«
Ouvrez-moi donc sur le champ ou je brise la porte. »
« Libre à vous, monsieur le marquis, mais si vous brisez cette porte, vous mourirez celle d'un couvent, et de votre vie vous ne me reverrez. »«
Que faut-il donc que je fasse ? » s'écria-t-il en frappant du pied et en déchargeant un coup de canne sur une pendule qui se trouva sur la cheminée près de laquelle il était.
« Car je n'ignore pas, dit-il d'une voix éteinte par la fureur, que vous êtes avec le vicaire, mais il le paiera de sa vie.
« Tuez-moi donc !» dit froidement le vicaire en ouvrant la porte du boudoir. Ce sang-froid et l'attitude noble et imposante de M. Joseph glacèrent le marquis.
« Joseph ! » s'écria Mme de Raucourt. « Retirez-vous ! Et vous, monsieur le marquis, sous peine de me voir mourir, gardez-vous de toucher à un seul cheveu de sa tête !»
Le vicaire s'en alla lentement, sans laisser paraître ni crainte ni confusion. Le marquis, stupéfait, le regarda sortir, et après avoir laissé échapper un mouvement convulsif de rage et d'indécision, il se retourna vers le boudoir où il entra. Madame de Raucourt lui dit froidement « Fermez la porte, car pour votre honneur, il faut, je crois, éviter qu'on entende ce que vous avez à me dire. » Puis elle ajouta quand il fut revenu « Que me voulez-vous ? »
« Madame ! » s'écria le marquis, pâle et tremblant de fureur. « Madame, osez-vous bien me le demander ? Enfin, mes yeux sont dessillés, et je n'ai plus pour vous que les sentiments que vous méritez. Eh quoi ! Une créature que j'ai tirée de la misère, que ma main a fait monter au rang des plus grandes familles, qui me doit tout, s'abaisse, se dégrade. Un vicaire de campagne ! Encore, madame, si c'était un homme distingué ! Si une passion fondée sur un rang, des avantages ou des qualités entraînantes, si l'homme que vous aimez tant vous excusait, mais non, vous descendez plus bas.
Ah, ministre ou prince du sang, n'est-il pas vrai, monsieur l'homme de cour ? Ah, ne me forcez pas à descendre au sarcasme, monsieur le marquis. Reprochez-moi ma faute et non pas vos bienfaits, et ne vous déshonorez pas vous-même.
« Ah, mais je me déshonore !» reprit M. de Raucourt. « Ah, c'est moi qui me déshonore » répétait-il en se promenant à grands pas dans le boudoir.
Joséphine, muette, pâle, interdite, n'osait ouvrir la bouche. Elle sentait que toutes les apparences l'accusaient. et que, pour se justifier de cette imprudence, il fallait, au bout de sa carrière, avouer la faute de sa jeunesse devant un homme qui, s'apercevant qu'il avait été trompé dès le premier jour de son mariage, ne la croirait peut-être plus. Elle se laissait donc accabler, parce que sa fierté, son amour maternel, une foule de considérations, le lui commandaient impérieusement. « Eh bien, madame, continua le marquis en croisant les bras et en s'arrêtant devant elle, « eh bien, à tout cela, qu'avez-vous à répondre ?»«
Rien ? » ?»«
Rien ? » ?»« Ah, dès aujourd'hui, je deviens un maître, et vous connaîtrez jusqu'où peut aller ma colère. » « Répondrez-vous ? » s'écria-t-il. Le marquis ne put rien ajouter, la fureur l'étouffait. Madame de Raucourt se leva, se mit devant sa psyché, et rétablissant le désordre de sa coiffure, elle dit tranquillement et sans regarder son mari « Que voulez-vous que je réponde à un homme qui s'abaisse jusqu'à épier sa femme ? Vous partez pour A, du moins vous le dites, et monsieur se cache. » Un grand personnage, un pair de France caché. Est-ce la diplomatie qui vous a appris d'aussi nobles ruses ? Ajouta-t-elle avec un léger sourire qui couvrait tout son embarras. Oh, comble d'infamie ! Comment, madame ? Dit le marquis en saisissant avec force le bras de sa femme. Comment vous osez plaisanter dans un pareil moment ? Il y a dans tout ceci quelque mystère que je ne puis pénétrer. Je me suis abusée sur vous depuis 20 ans. « Monsieur, interrompit-elle, contenez l'ardeur de vos caresses. Voyez !» Et elle lui montra son bras, sur la peau douce duquel les doigts de monsieur de Raucourt étaient marqués. Il eut un mouvement de regret, mais il continua. « Comment, vous osez me reprocher ma ruse ? Et la vôtre, perfide ?»«
La mienne, reprit-elle, jamais je ne me cache. » « Vous m'auriez ce matin demandé ce que je comptais faire, je vous l'aurais dit. »
Et le visage de Joséphine semblait calme. « Vous auriez avoué que vous attendiez ce prêtre de l'enfer ?»«
Assurément, » répondit-elle.
« Eh bien, je mettrai votre franchise à l'épreuve. Lui avez-vous écrit ?» demanda le marquis en la foudroyant de ses regards.
« Oui. »«
C'est vous qui lui avez dit de venir ?»«
Oui, 100 fois oui, monsieur. » Et je ne puis me passer de voir ce jeune homme.
Enfin, dit-elle avec dépit, je l'aurai chaque jour, à toute heure, sans cesse à mes côtés. Reprenez vos dons, votre luxe, je m'en irai avec lui, loin, bien loin, seule, et je serai plus heureuse que je ne l'ai jamais été. Vous m'y forcez, je vous le dis, et je n'en aurai jamais de remords. Eh quoi, grand Dieu ! Les hommes prétendent-ils qu'un titre, une corbeille, et du latin que nous ne comprenons pas, doivent étouffer en nous tous les sentiments naturels, et faire de nous un champ, une métairie, que notre contrat de mariage soit un acte de vente, que l'usufruit et la nue propriété de cette terre conjugale leur appartiennent ? Ah ! Que de pleurs on doit répandre en mettant une fille au monde ! Oui, malheureuse que nous sommes, l'amour d'un mari est quelquefois aussi cruel que son dédain. Hélas, notre bonheur dépend donc d'un regard, d'un geste. Ma foi, je ne veux plus de la vie. Elle est trop pesante avec ses conditions. » Le marquis, poussé à bout par ce déluge de paroles, s'écria. « Madame, madame, vous me faites mal. J'étouffe !» Et il s'avança sur Joséphine avec une sombre fureur. Il lui présenta les mains de telle manière qu'elle crut, en voyant ses yeux étincelés, qu'il venait la tuer. Une peur glaciale s'empara d'elle.
« Monsieur ! » cria-t-elle. « Au secours ! Au secours ! Ah ! » !»«
Qu'avez-vous, madame ? Je viens vous dire adieu. » En disant cela, il était pâle et tremblant.
« Non, monsieur le marquis, c'est à moi de partir. » Mademoiselle de Vaucelles trouvera un asile chez son cousin le duc d'Ivrajot. Cette malheureuse créature a des amis qui ne la soupçonneront pas et qui sont encore assez puissants, je pense. »
Elle se leva avec dignité, et faisant quelques pas, elle se retourna, regarda le marquis et lui dit « Vous m'aimez encore, monsieur de Raucourt, je le vois. Je ne vous dirai pas que je vous aime. si, malgré toutes les apparences, il n'est rien de tout ce que vous croyez.
Non, je me tais.
Adieu, je vous attends.
Joséphine !
Et le marquis se jeta à ses pieds.
Je t'en conjure, un mot, un seul, mon cœur en a besoin, une seule parole. J'ai besoin de te croire vertueuse.
Ceci, dit-elle en riant et en caressant doucement le front de son époux,
ceci devient un peu moins marital. Voilà des formes, au moins.
Fi donc, monsieur, relevez-vous. Je ne suis plus digne que d'horreur. Une malheureuse, tirée de la misère.
Cependant, monsieur, je me nommais alors mademoiselle de Vaucelles. Vous l'avez un peu oubliée.
Oh, je l'ai oubliée, dit le marquis avec un reste de dépit.
Mais vous aussi, reprit-il.
Tenez ! Et il présenta à sa femme la lettre interceptée. Elle la prit et se mit à rougir.
Ah, vous rougissez encore,
dit-il avec un sourire sardonique.
Je rougirai toujours pour vous, répondit-elle, et pour moi, car je verse des larmes de sang sur mon erreur d'un moment quant à ce jeune prêtre. Lorsque j'écrivis cette lettre, monsieur le marquis, je croyais aimer, je l'avoue, le vicaire.
Et maintenant ?
Je l'aime encore, dit-elle en regardant monsieur de Raucourt avec la plus vive expression de tendresse. En vérité, il faut convenir que nous sommes entourés de gens bien méchants. Qui vous a remis cette lettre ?
Joséphine, j'ai promis, je dois...
Allons, je veux le savoir, dit-elle d'un ton de maîtresse. M'aimez-vous ? Dites-le.
Jugnot, qui l'intercepta, me...
La marquise se tourna vers le ruban de la sonnette, le tira légèrement et sans aucune marque de colère.
Marie arriva.
« Marie, dit Joséphine, que dans une demi-heure, Jugnot sorte du château. Il n'est plus au service de monsieur le marquis. Et s'il ose paraître devant nous, apprenez-lui que je me chargerai de son logement.
Quant à vous, monsieur, sans que vous le demandiez, je vous accorde le pardon de vos outrages. Les rôles sont changés, et c'est à moi d'implorer mon pardon. »
Aussitôt, Joséphine se mit à genoux avec cet air d'obéissance qui rend une femme si touchante. Elle regarda douloureusement monsieur de Raucourt, stupéfait, qui s'assit. Quelques larmes roulèrent dans les yeux de la marquise, elle soupira, puis elle dit d'une voix plaintive
« Il faut en finir, monsieur de Raucourt, je vous dois la vérité. » Je ne vous demanderai pas le secret. Vous le garderez, j'en suis sûre.
Relevez-vous, Joséphine, dit le marquis surpris.
Ah, dit-elle, cette attitude est la seule qui me convienne.
Mais que voulez-vous dire ?
Monsieur, reprit-elle, vous n'avez pas oublié, sans doute, la mélancolie dont j'étais accablée à l'époque où je vous connus, et pendant tout le temps que vous me fîtes la cour.
Le marquis inclina légèrement la tête.
« Alors, ne vous ai-je pas longtemps refusé ?»«
Oui. Cette souffrance que je vous ai tue, n'a-t-elle pas duré longtemps ?
Vous a-t-elle inquiété ?»«
Beaucoup. »«
Je vous en remercie, » répondit-elle avec un sourire.
« Joséphine !»«
Monsieur !»
dit-elle avec une répugnance invincible et en versant un torrent de larmes.
« J'avais commis une faute !» dont je ne vous ai jamais instruit. »
Le marquis, à l'aspect de la douleur de Joséphine, sentit des pleurs inonder ses yeux. Il la regarda fixement.
« Monsieur, cette douleur était causée par la mort prétendue de mon fils. »
« Un fils ? Un fils ? » s'écria le marquis, ému en parcourant la chambre comme un fou. « Vous aviez un fils avant mon mariage ? »
« Grand Dieu !» cria la marquise en tombant à ses pieds. « Bonté céleste, il ne m'accable pas !»«
Moi, t'accabler ?» dit monsieur de Raucourt en prenant Joséphine dans ses bras et la serrant contre son cœur.
« Ma Joséphine !»
Et il la couvrit de baisers.
« Ce fils, c'est le vicaire !»
Le marquis s'assit.
et stupéfait, attira sur ses genoux sa femme, qui épiait avec le soin d'une mère les moindres mouvements de la figure de son mari.
On a tout fait pour le perdre. On l'a envoyé dans les Indes.
Le hasard, ou plutôt la providence, l'ont ramené au lieu où il fut nourri, et sous l'œil de sa mère. Trompé par la nature, je l'aimais, je crus l'aimer d'amour. Maintenant, c'est mon fils.
Et son père est monsieur de Saint-André, l'évêque, ajouta le marquis.
Silence, monsieur, silence! Gardez qu'un mot de votre bouche ne trahisse un pareil mystère. De la discrétion.
Et elle embrassa son mari. Je le jure, Joséphine. Pendant longtemps, le silence régna. Enfin, le marquis, regardant sa femme avec ivresse, lui dit
« Tu m'aimes donc toujours ?»«
Oh oui !» répondit-elle.
« Eh bien, » dit le marquis doucement, « nous n'avons point d'enfants. »
Une joie céleste inonda le cœur de la pauvre mère.
« Eh bien ?» demanda-t-elle avec anxiété.
« Eh bien, » continua le marquis, « nous adopterons Joseph. » Il aura mon nom. J'obtiendrai du roi qu'il me succède dans ma pairie. Et il sera riche, car l'évêque l'a institué son légataire universel. Ce jeune homme est bien de sa personne, reprit le marquis. Il a de la fierté, il est instruit, il arrivera à tout.
Frédéric, ah, tu me fais mourir de joie.
Et la marquise évanouie laissa tomber sa tête sur le sein de monsieur de Raucourt, attendri.
Je sens que j'aimerais ton fils.
Cette parole douce et les caresses du marquis rendirent Joséphine à la vie.
Et moi, dit-elle, je bénirai cet événement. Mon existence maintenant sera complète. Le pauvre enfant venait me raconter ses malheurs. « Frédéric, dit-elle avec gravité, songez que le vicaire ignore qu'il est mon fils, que j'ai juré de ne pas l'en instruire. Promettez-moi de garder le secret jusqu'à ce que Monseigneur soit mort, et même jusqu'à ce que nous l'ayons adopté. »
« Tu ne jouiras donc qu'en secret de ton bonheur ?»«
Il le faut, dit-elle en soupirant, il le faut pour son propre intérêt et pour son avenir. »
Que je suis heureux, s'écria monsieur de Raucourt. La conclusion de cette scène qui avait mis tout le monde en émoi surprit les habitants du château. Chapitre 20. Pendant que cette scène avait lieu dans le boudoir de la marquise, il s'en passait une autre au presbytère. Le jeune prêtre, en retournant à pas lents chez le curé, fit d'austères réflexions.
Eh quoi ? S'était-il dit. L'amour de madame de Raucourt n'est pas éteint. Chaque jour il se réveille, aussi violent que celui de Mélanie. Ma présence l'exalte continuellement, et j'aurais ainsi causé le malheur de deux personnes. Il semble que mon infortune soit contagieuse. Allons, je dois quitter ces lieux. Pourtant ce pays me plaisait, et j'espérais y mourir.
Lorsqu'il fut devant la grille, il jeta un coup d'œil sur le parc, sur les ruines de l'ancien château, il poussa un soupir et dit
« Je vais abandonner tout cela. La fatalité me sépare de tout ce que j'aime. »
Puis, en pensant à sa chère Mélanie, il s'achemina lentement vers la demeure du bon curé. Marguerite, en lui ouvrant la porte, fut frappée de la figure altérée du jeune prêtre.
« Qu'avez-vous, monsieur ? » s'écria-t-elle.
« Rien, rien, ma bonne Marguerite. »
Monsieur Joseph de Saint-André se dirigea vers le salon, il y entra doucement et s'assit auprès de monsieur Gausse qui lisait son bréviaire, c'est-à-dire qui en faisait crier toutes les pages en les passant en revue avec son pouce, de voir qu'il remplissait consciencieusement tous les soirs.
« Eh bien, mon ami, qu'est-ce qui vous pique ? Vous êtes encore plus triste qu'à l'ordinaire. Tuez-moi donc votre chagrin avant qu'il ne vous tue. »
« Hélas, mon vieil ami, vous m'avez témoigné de l'affection. J'ai besoin d'un avis. »
« Vous dites, dors, un bon conseil vaut... »
« J'entends du bruit, » dit le vicaire, interrompant un des proverbes favoris du curé. « Mon cher vicaire, reprit M. Gauss à voix basse en se penchant vers l'oreille du jeune homme, c'est Marguerite qui a toujours trouvé qu'on avait tort de se plaindre de ce que les portes ne fermaient pas bien. La Providence ayant permis ce petit inconvénient pour la plus grande commodité des servantes. Il serait plus facile de tirer une lettre de change de la Gascogne et du Limousin que de l'empêcher de connaître ce qui se dit. Aussi, lorsque je discute quelque chose d'important, j'ai coutume de l'appeler et de lui recommander le secret. En la piquant d'honneur, on arrête sa langue.
« Eh bien, parlons à voix basse, » dit le vicaire.
« La pauvre fille va se damner, » répliqua le curé avec un accent de bonté. « Et pendant 15 jours, elle m'assassinera pour connaître ce dont il aura été question. »«
Mais qu'elle entre !» s'écria Joseph.
Marguerite était entrée. « Monsieur, » reprit le vicaire, « il est certain que madame la marquise de Raucourt m'aime. » À ce mot, Marguerite s'approcha du vicaire et le curé le regarda d'un air étonné.
« Vous ne faites que de vous en apercevoir ?» s'écria monsieur Gauss.
« Il y a quelque temps que je le sais, » reprit gravement monsieur Joseph. « Mais j'ai cru que cette passion se guérirait. Je vois au contraire que chaque jour elle augmente. » Et que madame de Raucourt la présente sous divers aspects pour se tromper elle-même, peut-être. Monsieur le marquis est plongé dans une profonde affliction. Je suis cause de son malheur. Je dois le faire cesser.
Certes, s'écria le curé, c'est ne pas être homme que de causer volontairement l'infortune de notre semblable. Il y a là-haut quelqu'un qui récompensera les âmes compatissantes, et il est écrit que le corps sera admis à partager cette récompense.
« Alors, monsieur Gauss, je vais vous quitter. »«
Me quitter ?» s'écria monsieur Gauss.
« Oh, mon enfant, l'on sait où l'on est, l'on ne sait pas où l'on va. Que vous ai-je fait pour m'abandonner? Puis-je vous suivre, moi? Où la chèvre est liée, il faut qu'elle broute. Restez, mon ami, restez. » « Oh non, je dois m'en aller, et sur le champ encore. Ce n'est pas par crainte, au moins. » s'écria-t-il d'un visage enflammé. « Si vous voyez monsieur de Raucourt, dites-lui que l'homme caché sous l'humble soutane du vicaire ne redoute personne et que le sentiment de mes devoirs m'a seul déterminé à partir. » En disant ces paroles, le jeune vicaire s'était levé et courait à son appartement. Il y prit le portrait de Mélanie, son manuscrit, ses papiers et redescendit.
« Mon cher enfant !» s'écria le curé, les yeux pleins de larmes. « Que deviendrai-je? Que deviendront les malheureux ?»«
Je leur laisse un père. »«
Mon cher ami, vous abandonnez un pauvre vieillard qui se réjouissait de savoir que vous lui fermeriez les yeux. Je vous aimais, Joseph. Ainsi donc, ce vallon, cette campagne, cette habitation modeste. »
Il faut dire adieu à tout cela, monsieur. » reprit-il après un moment d'attendrissement. « Je vous laisse mes livres, et c'est une faible marque de ma reconnaissance. »«
Ah ! » s'écria le curé, « je ne monterai jamais chez vous, je n'aime pas les tombeaux. »«
Vieillard aimable et simple, » dit le vicaire ému, « et vous aussi, vous êtes de l'Amérique. »«
Pauvre jeune homme, soyez heureux. » Et pour que je puisse vous servir à quelque chose, gravez dans votre souvenir que l'on n'est jamais criminel en obéissant à la voix de la nature. »
Le vicaire regarda le curé avec étonnement. Monsieur Gauss leva péniblement sa jambe de dessus le tabouret où elle était posée, et se servant du bras de Joseph, il réussit à se mettre debout.
« Allons, mon enfant, je veux vous conduire aussi loin que je pourrai. Allez !» « Votre dévouement, la bonté de votre cœur m'ont touché. »«
Monsieur, » dit le jeune homme, « et vous, Marguerite, promettez-moi de ne jamais ouvrir la bouche sur moi, de ne dire à personne que je suis parti avant 2 jours, car alors je serai loin. » Ajouta-t-il avec un sourire sombre et sardonique, « si l'on vient me demander, trouvez quelque prétexte, que je suis en course, indisposé, que sais-je. »
« Nous vous le promettons, » dirent le curé et sa servante.
« Adieu, Marguerite, » dit le vicaire d'un air affable qui fit tressaillir la pauvre fille. Marguerite, l'œil en pleurs, suivit longtemps le jeune prêtre en admirant sa belle taille, ses manières nobles, qui contrastaient avec la démarche pesante et l'air de bonhomie de M. Gosse. Les deux prêtres se dirigèrent vers la route d'A, et lorsque le curé eut dépassé le village d'une centaine de pas, il embrassa le jeune fugitif avec cordialité en lui disant « Adieu, soyez heureux !» Puis, s'asseyant sur une pierre, il regarda M. Joseph s'éloigner à grands pas. Il fallait que M. Gosse fût bien profondément ému pour ne pas avoir dit un seul proverbe.